Monsieur, monsieur là.
Je suis curieux de savoir, à l'intérieur de Gaza,
oui.
L'autorité, c'est l'autorité de Hamas.
Exact.
Ils sont un gouvernement. C'est le gouvernement, c'est l'État, c'est la police.
Exact. Exact.
C'est tous les services municipaux.
Voilà. Exact.
Mais comment est-ce que ça se comporte? Est-ce que c'est un État de droit ou est-ce que c'est un régime qui fait peur? Ou ceux qui se mêlent dans cette affaire, est-ce que j'aurais peur de parler en voix ou d'arriver mon opinion?
Je peux
vivre sous ce régime-là.
Oui. Je vais vous conter une anecdote. La première fois que j'étais là, j'étais invité par une église. Il y a des chrétiens à Gaza. J'étais invité par une église, j'ai donné des cours d'anglais pendant une journée à des jeunes femmes. Et après, il y avait une réunion de plusieurs personnes, tous des hommes. Il y avait un gros débat. Je n'ai pas compris le sujet de Dieu, parce qu'en arabe, je ne parle pas l'arabe. Et j'avais un jeune homme qui agissait un peu de mon fixeur, mon interlocuteur. Okay? Même mon interprète dans le sens culturel comme dans le sens linguistique. De quoi il parlait là? Les trois personnes qui étaient là étaient vraiment...
On n'entend pas.
Excusez-moi, merci. Les trois hommes qui étaient à côté étaient avec Fatah, les autres étaient avec Hamas. Et ils étaient très, très contents. Mécontent avec quelque chose que le gouvernement Hamas avait fait, je ne sais, des sous, je ne me souviens pas. Alors moi, j'ai dit à mon ami en sortant, j'ai pensé que ce serait peut-être plutôt difficile de critiquer Hamas. Il m'a répondu comme ça, il dit, c'est pas Égypte ici. Alors que moi, je pensais que c'était comme Égypte, c'est une dictature et tu critiques Tom. Non, c'est pas ça. Moi, c'est strict, il y a mais tu peux, quand du temps que j'étais là, tu peux laisser ta porte ouverte. Hein? Il y avait une moralité stricte. Et sans doute, il y avait j'ai pas visité, après coup, j'aurais voulu aller voir une prison ou aller voir un cours pour savoir, j'ai pas de choses. Personnel pour apporter ça. Mais j'ai l'impression que, non, c'était strict, mais c'était pas une dictature féroce comme on le présente souvent.
Pourtant, il n'y avait pas d'élection depuis 18 ans.
Voilà, mais Hamas était pour les élections, vous savez.
Ouais.
Hamas, c'est Hamas qui a mené les élections. Ils sont censés avoir une élection il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Hamas a annulé. Hamas a annulé.
On a entendu parler de négociations où le Qatar est le médiateur en quelque sorte entre le Hamas et Israël.
Oui.
Au sujet, j'aimerais que vous nous parliez peut-être au sujet des... J'ai entendu dire que les prisonniers politiques sont évidemment au centre, à part évidemment les otages, oui,
oui.
Mais les prisonniers politiques sont au centre de ces négociations-là. Pouvez-vous nous parler de... Comment on vit là-bas, en Cisjordanie et à Gaza, avant le 7 octobre, par rapport à se faire prendre, se mettre en prison, comment la vie était une horreur pour les gens qui pouvaient à n'importe quel moment se faire arrêter,
oui.
Torturer, et combien de prisonniers y a-t-il dans ces prisons-là?
Vous avez entendu la question derrière? Je suis loin d'être un expert là-dessus, mais je vais donner ce que je pense connaître là-dessus. On dit qu'il y a 4000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, y compris plusieurs centaines de jeunes personnes de bas âge. Vous savez, dans la Cisjordanie, on peut être arrêté sans qu'on porte les accusations. Et c'est à continuation. Donc, les gens qui. Il n'y a pas de habeas corpus comme on a ici, où tu dois présenter devant un juge. Non, il n'y a pas ça. On peut le contrôler. Et c'est juste parce que les forces de l'ordre disent que vous êtes suspect pour sécurité et ainsi de suite.
Mm.
Donc, les gens, les Palestiniens dans la Cisjordanie, vivent une certaine tension, ce qu'on appelle Il suffit de faire un Facebook et tu peux être arrêté, même torturé, faire tes amis, et ainsi de suite. Chose qui m'a beaucoup surprise, c'est que la première fois que je suis allé à Gaza, j'avais un peu peur parce qu'on dit que Gaza, c'est une prison à air ouvert, n'est-ce pas? Et moi, je suis un peu timide. Moi, je n'irai pas facilement dans une prison au Canada passer 3-4 jours pour visite. Non? J'aurais peur des gangs, des gardes, de tout ce qui pourrait m'arriver. Donc, j'y allais avec une certaine appréhension. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver en arrivant à Gaza? J'étais surpris de voir qu'il y avait une paix. À la différence de la Cisjordanie, où il y a une tension toujours, parce qu'il y a toujours des colons, toujours des soldats qui sont là, à Gaza, quand ils ne font pas de bombardement, les gens vivent comme à Gatineau, avec beaucoup moins de sources, mais les relations des personnes, c'est calme. Ça. La seule chose, c'est que il y a la continuation des drones israéliens qui sont dessus, qui sont une menace constante, parce qu'on ne sait jamais quand ils vont arriver de quoi. Il y avait quand même une paix. J'étais surpris par la sensation de calme que j'avais à Gaza, alors qu'à Jérusalem ou dans la Cisjordanie, il y a une tension qui était beaucoup plus présente. Oui, monsieur.
Je ne sais pas si c'est une question, mais vous avez dit que l'Assemblée législative ne s'est jamais réunie. Comment on fait pour empêcher l'Assemblée de se réunir?
Je pense que. Je ne sais pas militairement comment ça se fait, je ne sais pas. Mais je pense que, avec l'appui des États-Unis et Israël, Abbas a dit non, ça ne se ferait pas. Et c'est lui qui avait l'argent. Donc, mais je ne pense pas qu'ils ont essayé physiquement, comme à la Révolution française.
Au fond, je pense que vous pouvez répondre. Moi, je me disais, il suffit que le président de la Chambre convoque et on peut y aller. L'argent,
c'est ça. Et aussi que beaucoup de candidats étaient arrêtés. Qui n'a pas posé de question encore? Monsieur, je privilège déjà. Oui, monsieur. Pour résumer, il semble qu'il y a des sources de gaz naturel sous l'est de la mer Méditerranée, près de Gaza. Et un des objectifs d'Israël à prendre pour Gaza, c'est d'avoir légalement droit à ces exploitations-là. Oui. Est-ce qu'il y a une solution? Vous savez, je pense que c'était le titre. Hein? Quand j'ai vu ça, mon cœur a droppé comme ça. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs solutions. Une solution que je n'avais pas imaginé possible jusqu'à ces dernières semaines, c'est que les Israéliens les tuent tous. Les tuent tous. Les expulsent tous et que personne ne lève la main. Moi, j'ai fait. Quand on parlait, depuis longtemps, les Palestiniens parlent de crainte d'un deuxième Nakba, une deuxième exploitation. Expulsion. Moi, je dis non. Aujourd'hui, avec les médias, social media, tout ça, ça ne pourrait pas se produire. À l'époque, tout le monde, c'était très loin, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de TV, tout ça. Mais aujourd'hui, non. Alors, aujourd'hui, je dis comment est-ce possible? Quand j'écoute Trudeau parler des terribles Hamas, il est sûr qu'Israël fait tout pour protéger les citoyens. C'est pas tout, c'est pas la route. Alors, ça, c'est une possibilité, une solution. Une autre solution, aussi haïssable, c'est que Israël fait des choses tellement dégueulasses que les autres pays disent, OK, on va mettre fin à l'État juif, on va mettre fin à Israël. On va les tuer. C'est une autre solution possible, qui est tout aussi mauvaise que l'autre.
On n'a pas entendu la deuxième solution.
C'est que, d'une part, que ce soit les Israéliens qui tuent les Palestiniens, oui, ou encore que les autres pays arabes tuent les habitants d'Israël. Vous m'entendez bien, je ne propose pas, hein, c'est pour ça. Sinon, la seule autre solution pour moi à long terme, c'est une solution démocratique, c'est une base démocratique où tout le monde vit ensemble avec les mêmes droits. Ça, c'est la seule solution durable. Mais c'est sûr que ce n'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Et les Israéliens n'ont pas d'intérêt, parce que je n'ai pas eu l'occasion de parler de ce que c'est qu'un État juif. Parce qu'un État juif, ce n'est pas juste un État où il y a beaucoup de Juifs, c'est un État où les Juifs contrôlent sur tout. Alors, la seule chose, à la longue, c'est que je voudrais que ce soit un seul État démocratique pour tout le monde. Moi, j'ai 78 ans, je suis sûr que ça n'arrivera pas dans mon vécu, parce qu'il y a tellement de craintes, tellement de haine, tellement d'anxiété, et ça, on pourra commencer à le réduire tant qu'il y a de l'exploitation, tant qu'il y a un peuple sur l'autre, cette haine va continuer. Donc, c'est ça. Vous avez déjà posé une question, madame,
oui,
je pense. Oui.
En termes de solutions, on attend beaucoup auprès des autorités pour trouver des solutions,
oui,
ou que sur le terrain, que les jeux vont se jouer de manière très inégale. Mais il y a à travers le monde des initiatives où des particuliers, des gens essaient d'être partie prenante dans l'avenir, d'abord comme ce soir, d'écouter, mais aussi de poser des gestes de résistance. Les Juifs de New York se sont rassemblés en désobéissance civile, en appui aux Palestiniens. Il y a eu des travailleurs, il y a quelques jours, qui ont manifesté pour essayer de sortir, empêcher certains produits militaires produits ici au Canada. Je ne dis pas que ça peut changer, mais je pense qu'il y a une partie où on peut juste regarder ça à la télévision ou à Facebook, ou on peut s'engager. Nous, je sais que moi, en ce qui me concerne, je me lève le matin, je me sens interpellé puis démuni en même temps. Mais je pense que si je ne veux pas juste me coucher mal, c'est qu'il y a des gestes à poser à un moment donné.
Merci. Alors moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que ce n'est pas à nous de trouver une solution. Hein? Mais je pense que nous pouvons faire des choses positives. Moi, je pense que si M. Trudeau appelait ce soir pour la fin du bombardement, ce serait déjà un pas en avant. S'il appelait pour l'aide humanitaire au gazois, ce serait un pas en avant. Si le Canada, de façon générale, défendait les droits appliqués à Israël, les mêmes critères qu'on appelle aux autres pays, ce serait déjà un pas en avant. Il faut s'entendre que le Canada est très loin de là. Hein? Même si tu étais président du Canada ou Québec ou quoi que ce soit, la ville, on n'a presque pas de levier. Et nous, on n'a pas de levier. Mais on peut parler. On peut appeler. On se dit, pays qui a pris les droits internationaux, je pense qu'on devrait être conséquent en ce qui concerne Israël. Nous, on ne peut pas aller plus loin que ça que demander l'application de la loi, l'égalité, aide humanitaire, cessation de bombardement. Moi, je pense qu'il faut que nous, les Canadiens, on doit se concentrer là-dessus. Madame, vous êtes déterminée, je vois que...
Ah oui, je suis déterminée, toujours oui. Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Et aujourd'hui même, je sais que vous avez présenté plutôt l'histoire et non pas une analyse de... Oui, avec une analyse de la conjoncture actuelle, mais non pas de l'actualité au jour le jour. Mais aujourd'hui, on a entendu dans les nouvelles que dans le grand hôpital qui avait été bombardé, on a trouvé des armes que les combattants de Hamas ont cachées. J'évite de dire le mot terroriste parce que je pense que c'est des combattants pour être légitimes. C'est ça que je pense, peut-être que je me trompe. Alors, mais on sait bien qu'on est dans une guerre maintenant de bombes, oui, mais aussi médiatique. On ne sait pas quoi, à qui croire, quoi, qu'est-ce que c'est la vérité. Ma question est celle-ci. Pensez-vous qu'en réalité, oui, c'est vrai que les Hamas cachaient des armes dans des hôpitaux? Parce que ça, ce serait très grave, évidemment. Ça viendrait, d'une certaine façon, nous dire que oui, qu'ils utilisent la population comme des boucliers humains. Qu'est-ce que c'est votre avis là-dessus? Merci beaucoup.
Premièrement, je ne sais pas. J'ai une idée, mais je ne sais pas. J'ai aucun... Moi, je pense que c'est bien probable. C'est probable. Pourquoi? Parce que l'hôpital, il y a beaucoup de va-et-vient. Si tu veux communiquer avec des gens et ainsi de suite, je pense que l'hôpital devient un lieu privilégié. Mais je ne sais pas. Et donc, c'est aussi vrai que même s'ils le faisaient, ils ont intérêt à dire que ce n'est pas vrai. Et même si ce n'est pas vrai, les Israéliens ont intérêt à dire que c'est vrai. Donc, je sais pas. Mais moi, je pense que c'est
probable. C'est probable.
Oui, madame, ok, excuse-moi.
Peut-être deux questions. Vous avez dit dans vos solutions,
oui.
Puis les Palestiniens, puis les Iraniens, ou continuer à travailler sur la démocratie, mais qu'est-ce qui ferait que ça changerait, même si c'est une option possible, juste théorique, qu'est-ce qui ferait que ça changerait? Parce qu'on voit qu'Israël veut un pays à elle seule, tout ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce que ça changerait? C'est comme pas logique. Fait que vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Puis mon autre question, qui est peut-être naïve, comme monsieur dit pour la sienne, c'est que ben, si les États-Unis, le Canada et tous les pays semblent soutenir davantage Israël, moi je m'imagine, puis j'aimerais avoir votre avis, est-ce que c'est parce que, bon, il y a beaucoup de lobbies juifs, beaucoup de gens juifs qui ont de l'argent et qui ont un pouvoir, autrement dit, mais je conclue, ben, les Juifs ont plus de pouvoir que les Palestiniens, c'est pour ça qu'on a cette situation-là. Ou est-ce que c'est une autre explication?
Je vais répondre, essayer de répondre de ma façon de comprendre la deuxième question. Il y a deux questions. Pourquoi le Canada appuie tellement Israël et pourquoi les États-Unis? Ce n'est pas exactement la même chose. Pour le Canada, moi je pense que c'est relativement clair. Il y a un lobby juif. C'est juif ou juif? C'est masculin ou féminin?
Juif.
Okay. Qui est assez important. Mais je pense que la préoccupation principale de M. Trudeau, c'est ses relations avec les États-Unis.
Ouais.
Le Canada ne peut pas faire grand-chose. Pourquoi se mettre à travers des Américains sur un thème sur lequel on n'a pas d'influence de toutes les façons? Moi, je pense que ma motivation du Canada est principalement là, mais c'est aussi la lobby juive qui est importante. Et l'Holocauste, les craintes de tous les Canadiens fondamentalisme islamique, toutes ces choses-là. Pour les États-Unis, moi je pense qu'il y a aussi le lobby juif qui est important, mais je pense que c'est un enjeu géostratégique qui est très important. Dans cette région-là, il y a le pétrole. Le pétrole est très important, pas juste pour les États-Unis, mais pour le monde. Et les États-Unis contrôlent l'exploitation et la distribution de pétrole, et Israël est leur allié stratégique, mais aussi, on peut imaginer un coup d'État en Égypte. On peut même imaginer un coup d'État en Arabie Saoudite, comme il y a eu un coup d'État en Iran. En Israël dépend des États-Unis. Donc Israël devient un allié fidèle, et c'est Israël qui bombarde les centrales nucléaires de la Syrie, c'est Israël qui attaque l'Iran. Je pense que la raison principale de l'appui des Américains, c'est une raison géostratégique, je pense. Oh là là, est-ce qu'on est...
Deux questions.
Qui n'a pas posé de question? Oh, oui. OK, je vais essayer de rapidement, de petites questions. Je vais... 1, 2, 3, 4, 5, s'il vous plaît. OK. OK, allez.
C'est qui, ça?
Il y avait une entrevue d'un ambassadeur israélien.
Oui.
Et il expliquait que la solution à deux États serait possible, mais ça se ferait au coût d'une guerre civile en Israël, parce qu'il y a une partition, il y a une portion de la population qui est convaincue qu'ils doivent avoir le territoire complet. Et donc, ça serait le coût à payer pour qu'il y ait une solution à deux États.
Ben, il y a un premier ministre israélien qui était tué parce que Rabin était proposé à être sur deux États, il était tué, non pas par un Palestinien, mais par un juif extrémiste. Alors, est-ce que vous étiez sur la liste?
Oui. Justement, quand commençant, il n'y a pas de pétrole en Égypte, en Syrie, en Israël, au Liban. C'est en Irak et en Iran qui sont plus loin, qui sont hors de la zone de conflit.
Oui.
Je voulais juste vous demander.
Il y a le canal de Suez, je n'ai pas manqué, qui est très important.
Oui, ça c'est pour acheminer, oui, vous avez raison. Juste avant l'offensive du 7 octobre, le gouvernement Netanyahou était fortement contesté par des centaines de milliers d'Israéliens qui protestaient contre ses politiques d'extrême droite, contre son projet de réforme là, pour diminuer les pouvoirs de la Cour suprême, etc., etc. On pourrait se poser la question à quel point le gouvernement Netanyahou aurait pu justement être renversé par cette contestation-là. Alors, pensez-vous qu'en lançant son attaque le 7 octobre, le Hamas, en fait, a rendu service à Netanyahou parce qu'il lui a donné le prétexte de prendre le contrôle de la situation puis de gommer l'opposition politique à l'intérieur d'Israël pour justement se présenter comme le sauveur d'Israël contre le terrorisme du Hamas?
C'est pas impossible, on verra. Je pense qu'une fois que la guerre est finie, je pense que Netanyahou déjà, ces problèmes vont revenir, je pense, mais je ne sais pas.
Avez-vous des connaissances au sein de la haute fonction publique, notamment aux affaires étrangères? Et si oui, quel est le sentiment au sein de la haute fonction publique au sujet de cette situation-là? Est-ce qu'on est plus pro-Israël ou pro-palestinien? Qu'est-ce que vous en pensez?
Honnêtement, ça fait 15 ans que je suis sorti du monde du travail. Je pense qu'il y a 15 ans, il y avait beaucoup de sympathie chez nos diplomates, surtout qui allaient sur le terrain et regardaient ce qui se passait. Je ne suis pas en mesure de dire maintenant, mais je sais qu'il y a toujours une tension entre des gens sur le terrain et Ottawa. Et je pense que même il y a une tension entre Global Affairs,
Affaires mondiales,
et PMO, l'Office du Premier ministre. Parce que là, les décisions importantes sont prises du point de vue politique et non pas du point de vue diplomatique. Ouais. Je sais que ces tensions-là existent, mais je ne peux pas décortiquer. Moi, j'ai un conseil d'administration, parce que j'ai un comité aviseur composé de plusieurs personnes, y compris un certain nombre d'ambassadeurs qui sont plus ou moins d'accord avec moi, pas sur tous les points, mais qui ont beaucoup de sympathie pour les Palestiniens et qui n'ont pas beaucoup d'amitié pour les Israéliens. Alors, je ne suis pas parlé juif maintenant, je parle d'Israël, ça peut parler de l'État d'Israël.
Peut-être juste un complément d'information sur cette question-là. Il y a deux ambassadrices, anciennes ambassadrices aux Nations Unies du Canada, qui ont dénoncé le fait que le Canada s'abstient de tous les maudits votes qui passent là, et que ce serait temps que ça change. Donc, vous parlez du terrain, en tout cas, c'est intéressant de noter ça, je trouve.
Je pense en général, je pense que la diplomatie en général est plus ouverte à connaître les problèmes des Palestiniens que l'Office du Premier ministre, qui voit ça d'un point de vue... C'est le Parti libéral qui a décidé dans cette direction où on va. Et la seule chose qui le changera, c'est qu'il voit si jamais il y a des manifestations très... Parce que les libéraux, comme tous les partis politiques, ils sont sensibles aux voix, n'est-ce pas? OK, Luc, voilà.
Oui. Donc, moi, j'étais intéressé à savoir si vous êtes au courant des citations où on cite Netanyahou qui aurait il serait vanté à plusieurs reprises dans l'histoire de financer un groupe comme Hamas. Puis, si vous voulez commenter sur ça, si vous êtes au courant.
Mais dernièrement, il y a eu plusieurs articles dans le Haaretz, qui est le journal israélien, critiquant Netanyahou, non pas sur l'origine de Hamas. J'ai parlé du fait qu'Israël avait aidé un peu la création de Hamas il y a 30 ans, mais du fait que Netanyahou, sa stratégie, c'était de continuer à laisser les partis, les pays arabes, surtout Qatar, donner de l'argent à Hamas, parce que Hamas servait pour lui. Hamas envoyait des bombes de temps en temps, mais les bombes Hamas... Est-ce que vous avez déjà vu une photo d'un seul édifice, un Israélien tué par une bombe? Non, il n'y en a pas. Moi, j'étais sous les bombes de Hamas, j'étais près de la frontière avec Gaza, et j'ai entendu des haut-parleurs, je ne comprenais pas ce qu'ils parlaient en hébreu, et tout d'un coup, il y a des bombes qui commencent à tomber, mais c'était les forces d'une grenade. Si c'était tombé sur ma voiture, j'étais mort. Mais quand ça tombe à 50 mètres, il n'y a rien. Alors, je pense qu'Hamas a envoyé 36 000 missiles, mais il y a 60 morts. Alors, une seule bombe israélienne tue 200 personnes comme ça, c'est pas le cas. Alors, je pense que Hamas, Netanyahu, trouvait ça utile d'avoir Hamas. Il venait aux États-Unis, on est sous attaque, on a besoin d'argent, et ainsi de suite. Mais maintenant, il se fait critiquer parce qu'on dit, écoute, Trump, t'as pas... T'as fermé les yeux sur ce qui se passe. Oui, dernière question. Oui. Oui. Je vais répéter les questions. Monsieur fait le point, je pense qu'il a raison, qu'en plus du lobby juif, en plus des raisons géostratégiques, il y a aussi un important lobby chrétien, évangélique, qui, pour des raisons religieuses, voit que le Messie va arriver quand les juifs sont tous, ainsi de suite. Et je pense que vous avez tout à fait raison, même je pense que numériquement, ils sont plus importants que les juifs aux États-Unis. Alors, je pense que mon temps est fini. Je vous remercie d'avoir passé patiemment tout ce temps-là. Je reste encore ici, vous avez des questions précises, et puis je remercie.
Encore une fois, merci, M. Larson. La prochaine conférence de la Société Gatineau-Monde, hein, on travaille sur un projet présentement. Si ça fonctionne, ça va être une nouvelle formule. Je ne le dis pas encore parce que c'est à l'étape d'un projet, mais une formule vraiment intéressante qu'on n'a jamais faite. On espère que ça pourra se réaliser. Et ce sera, malheureusement, ce soir, on a eu des problèmes techniques pour la salle. Habituellement, on est à la salle Jean-Lébré, mais on va, pour la prochaine conférence, on retourne à la salle Jean-Lébré. Donc, soyez à l'affût.
Ce sera sur quoi, s'il vous plaît, messieurs?
Comment?
La prochaine conférence sera sur quoi? Quel sujet?
Je peux pas dire. Il y a un projet en branle présentement. Il n'y a rien de finalisé encore. Mais c'est quelque chose de différent qu'on n'a jamais fait. On va vous informer en temps et lieu. Merci de votre participation.
Merci.